Excellent réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France se déconfine. Comment font les entreprises qui rouvrent leurs portes à leurs salariés et à leur tour, comment font ces salariés pour aller jusqu'à leur lieu de travail? Port de masque, distanciation sociale, un véritable casse-tête au travail et dans les transports. Reportage dès le début de ce journal.
À suivre encore le défi qui attend les professeurs dans le primaire. Comment permettre à leurs élèves de revenir en classe à partir de demain?
L'État appelle au sens de la responsabilité des Français car la loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée. À temps, un couac législatif et politique qui fait mauvais genre dans une crise où la gestion de l'exécutif a déjà été critiquée. Analyse dans ce journal.
Nous verrons également comment se passe le déconfinement pour les dom-toms et puis aux États-Unis alors que l'épidémie de coronavirus continue de frapper de plein fouet le pays.
Et juste après ce journal, vote à distance, surveillance, déplacement, politiquement, que change déjà cette crise sanitaire? C'est la question que posera Frédéric Saïs dans son billet politique à 8h16. Après 55 jours de confinement, 400 000 entreprises vont donc rouvrir leurs portes aujourd'hui avec de nouvelles mesures de sécurité, port de masque, distanciation sociale, un casse-tête, un défi pour les employeurs. Pour les 800 salariés de Mondial Tissu, le travail a déjà repris il y a 15 jours, sur dérogation, pour fournir les fabricants et couturières de masques. Retour d'expérience dans l'un des 90 magasins du groupe. Le reportage à Créteil d'Annabelle Grelier.
Bonjour mesdames, je vais vous demander un petit peu votre attention.
Pour Mélanie, la responsable du magasin, les nouvelles habitudes sont maintenant bien rodées. Toutes les demi-heures, elle vient informer avec le vigile les clients sagement alignés en file d'attente devant les portes. Les 9 salariés ont aussi retrouvé leur marque.
Par la distance de sécurité, éviter les embrassades, les masques, tout à chaque fois, changer tous les 4 heures, se désinfecter les mains, se laver les mains.
Le directeur général Bernard Cherki le reconnaît, les premiers moments ont été délicats.
Très clairement, les gens avaient peur. Il y avait une appréhension. Et c'était magnifique de voir qu'au bout de 2-3 heures, c'était reparti.
Alors bien sûr, les premiers jours, ça a un peu tâtonné.
Alors pour nous, en magasin, principalement, c'est qu'avant, on avait une règle sur chaque table. Et là, aujourd'hui, du coup, on est obligé de garder sa règle et se balader dans tout le magasin. Donc les premiers un peu gestes, c'est qu'à chaque fois, on courait à gauche, à droite, « Oh, j'ai oublié ma règle !» et tout.
Du côté de la direction, on ne compte plus les heures de réunion et le nombre de mails et coups de fil à toutes les équipes. Mais l'écoute et le dialogue avec les salariés sont sans aucun doute les clés d'une reprise du travail réussie.
On a dû s'adapter tout le temps. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un protocole, mais il y a eu plein de micro-décisions qu'on a dû prendre au fil de l'eau, en écoutant les gens, en voyant ce qui marche, ce qui ne marche pas, on s'est adapté. On a rajouté des visières, à un moment donné, il y avait des questions sur les climatisations. On s'est dit, ceux qui ont vraiment peur par rapport aux climatisations, on les arrête. Voilà, on n'a pas été trop rigide par rapport à notre protocole.
Naviguer à vue, réagir très vite, la période est compliquée. Pourtant, Bernard Cherki avoue vivre sa plus belle expérience professionnelle.
Il y a quand même un côté déjà exploit de refaire travailler 800 personnes dans une entreprise avec tous les problèmes réels de garde d'enfants, de maladies, d'inquiétudes, etc. Ça a été un grand moment parce que toutes les équipes se sont mobilisées corps et âme pour réussir ces ouvertures. Et c'est fascinant.
Malgré un chiffre d'affaires qui s'annonce en baisse cette année, le patron de Mondial Tissu a décidé de maintenir l'ouverture de 5 nouveaux magasins en France et d'embaucher pour donner un signal positif à l'entreprise, assure-t-il.
Et au premier jour du déconfinement, sauver des vies, rester prudent, c'est le message d'Emmanuel Macron qu'il a tweeté hier soir alors que des centaines de milliers de salariés reprennent donc aujourd'hui le travail physiquement après 2 mois d'arrêt. La voiture pour faire les trajets, gare aux bouchons et à la pollution, la circulation alternée pourrait être mise en place, a d'ores et déjà prévenu la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et si vous prenez les transports en commun, la SNCF assure que 6 Transiliens sur 10 vont rouler aujourd'hui, la moitié des TER. La RATP vise, elle, 75% du trafic en Ile-de-France, même si une soixantaine de stations de métro resteront fermées. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Vous êtes, vous, à la gare d'Austerlitz, bien ouverte, au sud-est de Paris, où passent trains, métro, RER. Alors, dites-nous, comment les voyageurs ont-ils vécu les trajets en ce premier jour de déconfinement, avec peut-être une nouvelle affluence dans les transports?
Oui, c'est la grande crainte de ce premier jour de déconfinement, l'affluence dans les transports franciliens, un casse-tête, il faut bien le dire, pour la SNCF et la RATP, entre distance physique à respecter et port du masque obligatoire. Alors pour Marie, qui reprend le travail ce matin, elle est chef de projet en signalétique, donc à Paris, Marie, tout se passe bien, elle est surprise même du calme et de la discipline qu'il règne dans les transports.
Ça va, les gens ils ont tous un masque, pour l'instant c'est calme, ça va. On va voir ce soir, je sais pas. Il y a une espèce de calme incroyable en fait. Espérons que ça dure, que tout le monde reste sage. Mais pour l'instant, franchement, j'ai dû voir une personne sans masque sur, je sais pas, 200, 250. Donc j'espère que tout le monde va continuer.
Les gens étaient bien.
Oui, oui, bah tout le monde dans le quai avait au moins un mètre, enfin sur le quai et dans le RER aussi. Donc après, j'ai regardé les horaires aussi, parce qu'il y en avait un 5 minutes avant. C'était bien des mondes, et là, impossible, je pense. Après, on peut faire ce qu'on peut, mais si c'est impossible, on peut pas.
Alors justement, un voyageur nous interpelle à ce moment-là pour nous dire que tout ne se passe pas si bien comme sur le RERD en provenance du Nord parisien.
Qui va vers le Nord Paris, si vous voulez, le RERD, qui va vers Garges-Sastel, Boussainville, tout ça, ils n'ont pas respecté. Il n'y a pas de distance de sécurité, les gens ils prennent le train, ils n'ont pas de masque, tout ça. Et ils ont les chaises, ils n'ont pas marqué les chaises aussi. Ça veut dire que les gens ils font n'importe quoi.
Voilà, situation, on peut le dire, assez différente finalement, en fonction bien sûr des horaires, des rames, des lignes, avec parfois une impossibilité, et on le verra peut-être dans la journée aux heures de pointe, à faire respecter les gestes sanitaires. Une autre voyageuse nous signalait quand même qu'il y avait beaucoup de contrôles qui étaient effectués à la montée des trains, des métros, en gare, et ça faisait pour beaucoup aussi, dans le respect des gestes barrières, contrôles. Il y en a ici à la gare d'Austerlitz, des contrôles faits par la SNCF, la RATP, des gendarmes aussi qui verbaliseront peut-être s'il le faut dans les jours qui viennent. Il y a une tolérance pour l'instant, notamment sur la possibilité et l'obligation d'avoir une attestation de son employeur quand on circule pendant les heures de pointe.
Véronique Rebérotte en direct de la gare d'Austerlitz pour France Culture avec Yves Lehors à la technique. Et vous le disiez, par rapport à cette attestation obligatoire pour les salariés pour accéder au transport en commun aux heures de pointe, les salariés doivent la demander à leur employeur, sauf que cette mesure adoptée samedi au Parlement, tout comme la limite de déplacement dans un rayon de 100 km de son domicile, cette mesure n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel, ce qui explique peut-être la tolérance en vigueur encore aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel ne se réunira donc qu'aujourd'hui. 1,5 million d'élèves reprendront à partir de demain le chemin de l'école. Mais déjà 130 000 enseignants du primaire, soit un tiers d'entre eux, préparent leur arrivée en classe et les conditions sanitaires sont tellement strictes que le retour dans les écoles s'annonce difficile. La rentrée se fait donc au compte-gouttes à Kim Kasmi.
Effectivement Catherine, pas plus de 15 élèves par classe dans le primaire, en CP et en CM2, 10 élèves en maternelle. Avec une priorité donnée aux enfants de soignants, les pompiers, les policiers, mais aussi aux enfants de personnes travaillant dans les transports, car la volonté de Jean-Michel Blanquer pour reprendre dès demain et non pas en septembre, eh bien, se justifie par le fait qu'il y a beaucoup de décrocheurs, 5% en moyenne, mais un chiffre qui peut même atteindre les 30% en zone d'éducation prioritaire. Un choix justifié aussi par les graves difficultés sociales qu'ont pu rencontrer certains enfants, avec malheureusement certains d'entre eux qui sont battus, ou d'autres plus graves, qui ont eu des problèmes pour se nourrir depuis le début du confinement.
Et si le confinement est levé, le virus, lui, n'a pas disparu, d'où une forte appréhension des parents et des enseignants, Hakim, à reprendre les cours cette semaine.
Effectivement, même si l'ensemble des mairies se sont battues pour être prêtes cette semaine, en mettant en place le protocole sanitaire demandé par le gouvernement, avec du gel hydroalcoolique, un écart entre les tables pour les enfants et les enseignants, des horaires pour la cantine échelonnés, eh bien le risque zéro n'existe pas, encore plus avec des enfants de cet âge qui ont l'habitude de se chamailler, des contacts, rappellent les syndicats qui sont également très inquiets, puisqu'une enquête révélée hier par le SNIPP a rappelé que 75% des professeurs ont peur de revenir travailler à l'école à partir de demain, tout comme les parents qui s'interrogent encore ce matin de savoir s'ils enverront ou pas leurs enfants à l'école cette semaine. En tout cas, le ministère, lui, s'est voulu rassurant en rappelant que la présence des enseignants et des élèves ne serait pas obligatoire. Enfin, d'un point de vue pédagogique, le ministère rappelle qu'il ne s'agit pas, eh bien, de terminer les programmes, mais surtout d'une prise de contact et de vérifier les acquis pour les enfants qui passeront au niveau supérieur à la rentrée de septembre. Mais là, les syndicats sont aussi inquiets car ils précisent et rappellent, notamment l'UNSA, que s'il y a des élèves en classe et d'autres qui seront encore chez eux en présence numérique, eh bien, cela risque encore d'accroître les difficultés des élèves.
Hakim Kasmi, merci pour toutes ces explications.
8h09 sur France Culture, arrêtons-nous À présent, Catherine, sur la question des masques, vous en portez un d'ailleurs de manière bizarre, mais oui, vous le portez pas comme
pour mieux parler.
Il faut le mettre en fait sur le nez et sur la bouche. Comment et où s'en procurer ? La question aura sans nul doute été le fil directeur de ces dernières semaines.
Ces masques sont désormais accessibles à la population tout entière. Chacun est censé pouvoir s'en procurer, non seulement dans les pharmacies et les bureaux de tabac, mais aussi dans certaines mairies qui ont décidé d'en mettre à disposition du public. Et enfin, dans les hyper et supermarchés, face à la pénurie initiale, les filières de production et d'importation de ces masques se sont structurées. Idem pour leur prix, le point complet avec Anne Lorchouin.
500 millions de masques chirurgicaux devraient être mis en vente dans les enseignes de la grande distribution d'ici la fin du mois de mai. Et au total, ce sont près d'un milliard de ces masques qui ont été importés en France depuis le 1er mars, essentiellement en provenance de Chine, avec, pour faire face aux besoins criants, une nécessaire adaptation des normes. Ces masques chirurgicaux sont pour la plupart aux normes chinoises et non plus aux normes européennes. La DGCCRF est sur le pont pour contrôler les masques défectueux ou frauduleux. Elle évalue ce taux de fraude à 5%. Quant à la filière française de masques alternatifs en tissu, 146 modèles ont été validés à ce jour, fabriqués par 76 entreprises. Leur capacité de production augmente pour un objectif fixé par Bercy à 20 millions par semaine. Une production qui s'intensifie, mais qui n'est pas suffisante. Écoutez Jacques Cressel, délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
Naturellement, nous adressons en priorité aux fabricants français, mais nous avons été amenés à demander à des fabricants au Portugal, dans les pays d'Afrique du Nord, qui sont spécialisés dans le textile, de se réorienter vers la fabrication de masques sur la base des normes françaises, avec des contrôles qui auront été faits de la même façon que pour les masques français et qui vont donc arriver progressivement. S'agissant des masques chirurgicaux, comme dans tous les pays du monde, ils viennent aujourd'hui de Chine. Les prix ont fortement augmenté depuis le début de l'année parce que la demande a très fortement augmenté, mais nous les vendons à prix coûtant, c'est-à-dire aux environs de 60 centimes d'euros par masque.
Le prix maximal fixé par l'État est lui de 95 centimes d'euros le masque chirurgical.
La question des masques qui a été l'un des arguments de l'opposition pour attaquer l'exécutif dans sa gestion de la crise du Covid-19. Pour le politologue Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po Paris, Emmanuel Macron n'a aujourd'hui pas le droit à l'erreur avec le déconfinement.
L'enjeu du déconfinement est essentiel pour un pouvoir qui, jusqu'alors, a donné l'impression qu'il hésitait, qu'il n'était pas très efficace. Quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion sur, au fond, les deux derniers mois, on s'aperçoit qu'après une très brève embellie où les Français accordaient tout juste leur confiance au gouvernement, très très vite, les Français ont considéré à hauteur environ de 60% que le gouvernement et le président de la République n'étaient pas efficaces et disaient, ben voilà, au fond, on n'a pas confiance. Donc, la réussite du déconfinement, j'allais dire, est incontournable. Un échec dans le déconfinement ou une réussite mitigée serait pour lui une très mauvaise nouvelle parce que, au fond, la crise sanitaire que nous traversons va déboucher sur une crise économique, mais surtout cette crise sanitaire vient après une crise sociale que l'on a connue en deux temps, qu'était la crise des Gilets jaunes, puis le mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Et il ne faut pas croire que tout ça est complètement oublié, tout ça a laissé des traces et les difficultés d'Emmanuel Macron s'inscrivent dans ce paysage.
Pascal Perrineau, interrogé par Stéphane Robert. Le déconfinement en question également dans les dom-toms, avec notamment la Polynésie française pour laquelle plusieurs centaines de résidents, notamment de Tahiti, étaient restés bloqués en métropole sans savoir quand ils pourraient rentrer chez eux. Bloqués pendant près de 50 jours, certains en situation de grande précarité. Le premier vol Paris-Papeete prenant des habitants à bord hors évacuation sanitaire a pu décoller hier. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Chaque département et territoire d'outre-mer a donc appliqué une stratégie bien spécifique.
Oui, trois stratégies majeures se dessinent. La première, c'est le cas de la Polynésie française. Vous en parliez, Catherine, les tout premiers retours de résidents polynésiens restés jusque-là en métropole, à près de 16 000 km de chez eux. Selon les chiffres de la présidence polynésienne, ils sont près de 650 résidents polynésiens, 350 étudiants coincés chez eux dans l'Hexagone. C'est un retour au compte-gouttes pour eux qui se dessine, avec un grand moment pour 70 à 80 personnes qui ont pu enfin décoller à bord d'un vol de continuité territoriale mis en place par l'État français via la compagnie Air Tahiti Nui. Liaison aérienne qui assurait jusque-là uniquement le fret, en majorité médicale, vers l'archipel polynésien. À l'arrivée sur place, ils sont contraints à une quatorzaine dans des hôtels avant de pouvoir rejoindre leur domicile. Des rotations tous les 8 à 10 jours sont désormais prévues. Stratégie d'un retour progressif en évitant au maximum toute contamination. Tahiti a été très peu touchée par le coronavirus, peu de cas officiellement détectés, une soixantaine seulement, et aucun mort. À l'opposé, en termes de stratégie, toujours dans le Pacifique, mais plus au sud, la Nouvelle-Calédonie a, elle, organisé des retours de ses habitants de manière régulière et continue pendant tout le confinement hexagonal. Quatorzaine à l'arrivée sur le Caillou, le surnom de l'île principale. Nouméa a amorcé le déconfinement depuis le 20 avril dernier. Un déconfinement déjà très concret là-bas. À titre d'exemple, la cathédrale de Nouméa a célébré hier sa première messe en public en accueillant plus d'une centaine de fidèles sur place. Dans l'océan Indien, cette fois Mayotte, concentre désormais malheureusement la moitié des cas de coronavirus des DOM-TOM. Le département d'outre-mer a détecté 1023 cas, 11 morts, et fait partie des 32 départements français qui restent classés zone rouge en raison de la circulation toujours rapide du virus et du risque de saturation des hôpitaux.
Sophie Delpont en direct ce matin pour France Culture. Chez nos voisins européens, à présent des confinements partiels en Espagne, au nord de la Galice et au Pays Basque, mais aussi à Saragosse et Séville, où les bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses avec des tables espacées de 2 mètres. Ce ne sera pas le cas à Madrid ou à Barcelone. Pas d'assouplissement, en revanche, au Royaume-Uni, confinement au moins jusqu'au 1er juin prochain. Et pendant ce temps, une deuxième vague de contamination, c'est ce que craignent ce matin la Corée du Sud et la Chine, avec de nouveaux cas recensés notamment à Wuhan, le berceau de l'épidémie de Covid-19. En bref, encore à l'étranger, 4 explosions successives de mines ont secoué ce matin Kaboul, blessant 4 civils. Et puis en Syrie, au moins 48 combattants ont été tués près d'Idlib dans des affrontements entre les forces du régime et les djihadistes, le bilan le plus lourd depuis le début d'une trêve observée dans cette région du nord-ouest de la Syrie. Quelques mots du temps en France. Pour ce lundi 11 mai, une vigilance rouge dans les Landes et en Gironde pour pluie et inondations. Alerte orange dans 26 départements du sud-ouest, mais aussi du centre aux Vosges, ainsi que de l'Île-de-France à la Bourgogne. Au meilleur de la journée, il fera entre 12 et 20 degrés des Flandres vers le Roussillon, jusqu'à 24 en Corse, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.